Casanova, La Belle Barrée. À Paris, en 1759, l'aventure est finie avec Mademoiselle XCV. Casanova a créé un établissement industriel pour produire sur les étoffes de soie, au moyen de l'impression, tous les beaux dessins exécutés à Lyon par des moyens lents et difficiles du tissage, afin de pouvoir ainsi développer un grand débit à des prix inférieurs. Au commencement du mois de novembre, un officier de bouche de la cour et du duc d'Elbeuf vint à ma manufacture avec sa fille pour lui acheter un habit pour le jour de ses noces. Je fus ébloui de sa beauté. Elle choisit une pièce d'un satin très brillant, et sa belle figure s'anima de tout le feu du plaisir quand elle vit que son père était content du prix. Mais sa peine fut grande quand elle entendit le commis qui disait à son père qu'il fallait acheter la pièce tout entière parce qu'on ne vendait pas au détail. Je ne pouvais résister à sa peine, et pour ne pas être forcé de faire une exception en sa faveur, je me hâtai de passer dans mon cabinet. Heureux si j'avais eu l'inspiration d'en sortir de la maison, car j'aurais épargné beaucoup d'argent. Mais aussi de quel plaisir, de quelle jouissance ne me serais-je pas privé? Dans son désespoir, la charmante jeune fille prit le directeur de la conduire vers moi, et celui-ci n'ose lui refuser. Elle entre, deux grosses larmes roulaient dans ses yeux et tempéraient le feu de ses regards. « Monsieur, me dit-elle de but en blanc, vous êtes assez riche, vous, et vous pouvez acheter cette pièce et m'en céder une robe qui me rendra heureuse. » Je jetai les yeux sur son père, et je vis qu'il avait l'air de me demander pardon de la hardiesse de son enfant. « Votre franchise me plaît, mademoiselle, et puisque cette complaisance doit faire votre bonheur, vous aurez la robe. » Elle me sauta au cou et m'embrassa de reconnaissance, tandis que son bonhomme de père se pâmait de rire. Ses baisers achevèrent de m'ensorceler. Après avoir payé la robe, le père dit « Monsieur, je marie cette petite folle dimanche. On soupera, on dansera, et vous nous rendrez heureux si vous voulez nous faire l'honneur d'assister à la fête. Je m'appelle Gilbert et je suis contrôleur de Monsieur le duc d'Elbeuf. » Je lui promis de ne pas y manquer, et la jeune fiancée fit un saut de joie qui me la fit trouver plus belle encore. Le dimanche, je me rendis au lieu qu'il m'avait indiqué, mais je ne pus ni manger ni danser. La belle Gilbert me tenait dans une sorte d'enchantement qui dura aussi longtemps que je demeurai au milieu de la société, au ton de laquelle je n'aurais jamais pu me faire. C'étaient des officiers de grande maison avec leurs femmes, leurs filles, gens qui singeaient les bonnes manières de leurs maîtres et qui n'en rendaient que les ridicules. Je n'y connaissais personne, personne ne savait qui j'étais. Je faisais au milieu de cela la figure d'un sot déplacé. Dans ces sortes de réunions, c'est celui qui a le plus d'esprit qui joue le rôle de nigaud. Chacun disait son mot à la nouvelle mariée, elle répondait à tout le monde et on riait souvent sans s'entendre. L'époux, bonnet, maigre et triste, applaudissait son épouse de ce qu'elle entretenait tous les convives dans la joie. Quoique je fusse amoureux de sa femme, bien loin que j'enviasse son sort, il me faisait pitié. Je devinais qu'il se mariait dans l'espoir d'améliorer son sort, et je lui prédisais en même temps la coiffure qu'il ne pouvait manquer de porter, avec une femme belle et toute de feu, lui qui était laid et qui paraissait sentir fort peu le mérite d'une pareille femme. Il me vint envie d'interroger la jeune épouse, et elle m'en fournit l'occasion en venant s'asseoir près de moi au sortir d'une contredanse. Elle me remercia de ce que j'avais fait pour elle et me dit que ma belle robe lui valait une foule de compliments. « Je suis certain qu'il vous tarde de l'ôter, lui dis-je, car je connais l'amour et l'impatience qu'il cause. C'est bien drôle que tout le monde s'obstine à me croire amoureuse, tandis qu'il n'y a que 8 jours que j'ai vu Monsieur Barré pour la première fois. Avant ce temps, j'ignorais absolument qu'il fût au monde. Et pourquoi vous marie-t-on à la hâte, sans vous laisser le temps de faire plus ample connaissance? C'est parce que mon père fait tout à la hâte. Votre mari est riche, sans doute. Non, mais il pourra le devenir. Nous ouvrirons après-demain une boutique de bas de soie au coin de la rue Saint-Honoré et des Prouvaires. J'espère, monsieur, que vous vous fournirez chez nous. Alors, nous vous servirons de préférence. Oh, vous pouvez y compter, et même je vous promets de vous étrenner, quand bien même je devrais veiller à votre porte pour m'y trouver le premier. Oh, que c'est aimable! Monsieur Barret, dit-elle à son mari qui était à 2 pas de nous, monsieur nous promet de nous étrenner. Monsieur a bien de la bonté, dit le mari en s'approchant. Cela nous portera bonheur. Et puis monsieur sera content de moi, car mes bas ne cotonnent jamais. Le mardi, dès le point du jour, je suis allé croquer le marmot au coin de la rue des Trouvères, jusqu'au moment où une servante vint ouvrir la boutique. J'entre. « Que voulez-vous ? » me dit la fille. « Je veux acheter des bas. »« Ah, les maîtres sont encore couchés et vous pouvez revenir plus tard. »« Non, non, j'attendrai qu'ils soient levés. »« Tenez, » dis-je en lui donnant 10 francs, « allez me chercher du café, je le prendrai ici. » Que j'aille vous chercher du café? Oh, mais je ne suis pas si sotte que de vous laisser seule dans la boutique. Ah, vous auriez peur que je vous volasse? Ma foi, on en voit bien d'autres et je ne vous connais pas. Non, vous avez raison, mais je resterai. Barret ne tarda pas à descendre et gronda la pauvre fille de ne l'avoir pas prévenue de suite. Va dire à madame de venir, lui dit-il. Et en même temps, il se hâtait de déployer des paquets pour que je puisse choisir. Il avait des gilets, des bas, des pantalons de tricot de soie. Je remue tout, j'examine, mais sans me fixer sur rien, jusqu'au moment où je vis descendre sa femme, fraîche comme une rose et d'une blancheur éblouissante. Elle me sourit de la manière la plus séduisante, s'excusa sur son négligé et me remercia de lui avoir tenu parole. « Je n'y manque jamais, lui dis-je, et surtout quand il s'agit d'une dame aussi respectable que vous. » Madame Barret avait 17 ans, d'une taille moyenne, parfaitement bien faite, et sans être une beauté accomplie, un Raphaël n'aurait jamais pu imaginer ni produire quelque chose de plus attrayant, quelque chose de plus puissant pour enflammer le cœur. Ses yeux vifs et à fleur de tête, ses longues paupières, qui donnait à son regard quelque chose de si modeste et de si voluptueux, sa bouche, toujours embellie par le plus agréable sourire, ses dents magnifiques, ses lèvres de rose, son éblouissante blancheur, l'attention gracieuse avec laquelle elle écoutait le son de sa voix argentine, sa douceur pétillante, sa vivacité douteuse, le peu de prétention qu'elle montrait, ou plutôt le peu de cas qu'elle semblait faire de ses charmes, dont elle paraissait ignorer la puissance, cet ensemble inexprimable, enfin, me tenait comme en extase, dans la contemplation de ce joli chef-d'œuvre de la nature, dont le hasard ou un vif intérêt l'avait rendu possesseur, le pauvre Barret, que je voyais là, fluet, blême, frêle, et tout attentif à ses bas, dont il faisait beaucoup de plus de cas que du joujou dont l'hymen l'avait gratifié à tort, puisqu'il s'en sentait pas le mérite et qu'il n'en savourait pas les douceurs. Je choisis des bas et des gilets pour 25 louis et je les payai sans marchander. Je vis la joie peinte sur les traits de la jolie marchande et j'en augurai favorablement pour mon amour, quoique j'eusse peu d'espérance, car il me semblait que les mois du miel ne devaient pas être propices à une intrigue. Je dis ensuite à la fille que je lui donnerais 6 francs lorsqu'elle m'apporterait le paquet à la petite Pologne, et je partis. Le dimanche suivant, Barret vint en personne me porter mon paquet. Je lui donnai 6 francs pour les remettre à la fille, mais il me dit qu'il ne serait pas honteux de les garder pour lui-même. Je trouvai cette cupidité bien vile, et d'autant plus qu'il privait sa servante d'une douceur licite après avoir fait sur les 25 louis un bénéfice assez considérable. Mais j'avais besoin de me le rendre favorable, et je n'étais pas fâché de trouver un moyen si commode de lui boucher les yeux. Ainsi, tout en promettant d'indemniser la fille, je traitais bien l'époux pour mieux l'assouplir. Je lui fis servir à déjeuner, en lui demandant pourquoi il n'avait pas amené sa femme. Ben, « Elle m'en a bien prié, me répondit-il, mais je n'ai pas osé prendre cette liberté, crainte de vous déplaire. »« Non, mais vous m'auriez fait au contraire beaucoup de plaisir, car je trouve votre femme charmante. » « Vous avez bien de la bonté, monsieur, mais elle est encore bien jeune. »« Je ne vois pas qu'il y ait là de quoi se plaindre. Et si elle aime à se promener, je serais charmé que vous la meniez une autre fois. » Il me dit que cela lui ferait grand plaisir à lui-même. Quand je passais en voiture devant sa boutique, je lui envoyais des baisers, mais sans m'arrêter, car je n'avais plus besoin de bas. Au reste, je me serais ennuyé avec une foule de freluquets qui à toute heure remplissaient son petit magasin. On commençait à s'occuper d'elle dans la ville. On en parlait au palais royal. Et j'étais bien aise d'entendre dire qu'elle n'était si réservée qu'en attendant quelque riche dupe. Cela me montrait que personne n'en avait goûté. Et j'espérais que je pourrais bien être cette dupe volontaire. Quelques jours après, apercevant de loin ma voiture, elle me fit signe de la main. Je descends, et son mari, après m'avoir demandé 1000 pardons, me dit qu'il désirait que je fusse le premier à voir des pantalons d'une nouvelle mode qu'il venait de recevoir. Ces pantalons étaient bigarrés et aucun élégant du bon sens ne sortait le matin sans en être affublé. C'était une mode bizarre, mais fort jolie pour un jeune homme bien fait. Comme il fallait qu'il fût parfaitement juste, je lui dis de m'en faire 6 paires, et j'offris de les lui payer d'avance. « Monsieur, en voilà de toutes les tailles. Montez dans la chambre de ma femme, me dit-il, vous pourrez en essayer. » Le moment était précieux. J'acceptai, surtout quand je l'entendis dire à sa femme de venir m'aider. Je monte, elle me suit, et je me mets en devoir de me déshabiller, en lui demandant pardon d'en agir ainsi en sa présence. « Je m'imagine, me répondit-elle, que je suis actuellement votre valet de chambre, et je veux en faire des fonctions. » Je ne crus pas devoir faire le difficile, et cédant à son empressement, après avoir ôté mes souliers, je lui livrai ma culotte, ayant soin cependant de garder mes caleçons pour ne pas trop effaroucher sa pudeur. Quand cela fut fait, elle prit des pantalons, me les essaya, les ôta, m'en essaya d'autres, et tout cela avec décence de part et d'autre, car je m'étais imposé la loi de l'être jusqu'à la fin de ce charmant manège en attendant mieux. Elle trouva que 4 de ses pantalons m'allaient à ravir, et n'étant pas disposé à la contredire, je lui remis 16 louis qu'elle m'en demanda, et je lui dis que je me croirais heureux si elle voulait me les apporter elle-même dans un moment de loisir. Elle descendit toute fière pour montrer à son mari qu'elle savait vendre, et l'ayant suivi de près, Barret me dit que le dimanche suivant, il aurait l'honneur de m'apporter mon emplette avec sa petite femme. « Mais vous me ferez plaisir, monsieur Barret, lui dis-je, et surtout si vous restez à dîner avec moi. » Il me répondit qu'ayant une affaire pressante à 2 heures, il ne pourrait s'engager qu'à la condition que je lui permettrais de s'absenter pour cela, m'assurant qu'il reviendrait sur les 5 heures pour reprendre sa femme. Je ne me sentais pas d'aise, tant cela m'accommodait, mais je savais me posséder, et je lui répondis avec calme que, quoique cela dût me priver de sa société, Il serait maître d'agir à son gré, d'autant plus que je ne devais sortir qu'à 6 heures. J'attendis le dimanche, et le couple bourgeois tint parole. Dès qu'ils furent chez moi, je fis fermer ma porte pour toute la journée, et comme j'étais impatient de savoir ce qui arriverait dans l'après-midi, je fis servir le dîner de bonne heure. La chair fut exquise et les vins délicieux. Le bonhomme mangea bien et but largement, de sorte qu'il fallut, par politesse, lui faire remarquer qu'il avait une affaire pressante à 2 heures. Comme il avait les esprits éveillés par le champagne, il eut l'heureuse idée de dire à sa femme de se retirer seul si ses affaires le retenaient plus tard qu'il ne croyait. Et moi, je m'empressai d'ajouter que je la reconduirais dans ma voiture après lui avoir fait faire un tour de promenade sur les boulevards. Il me remercia et, témoignant quelque inquiétude d'arriver trop tard au rendez-vous, je lui mis la joie dans le cœur en lui disant qu'un fiacre payé pour toute la journée l'attendait à la porte. Il partit et je me trouvai enfin seul avec un bijou que j'étais certain de posséder jusqu'à 6 heures du soir. Dès que j'eus entendu fermer la grosse porte sur le mari débonnaire, je dis à la femme « Je vous fais compliment, madame, d'avoir un époux aussi complaisant, car avec un homme de ce caractère, vous ne pouvez manquer d'être heureuse. » Oh, heureuse est bientôt dit. Mais pour l'être, il faut le sentir et jouir de la tranquillité d'esprit. Mon mari a une santé si délicate que je ne puis me considérer que comme une garde malade. Ensuite, il a des dettes qu'il a faites pour monter son commerce et qui nous obligent à l'économie la plus sévère. Nous sommes venus à pied pour épargner 24 sous. Oh, le produit de notre petit commerce nous suffirait si nous ne devions rien, mais avec des dettes, tout s'en va pour les intérêts et nous ne vendons pas assez. Mais vous avez cependant beaucoup de chaland, car chaque fois que je passe, j'en vois la boutique encombrée. Oh, ces chalands ne sont que des oisifs, de mauvais plaisants, des libertins, qui viennent pour me casser la tête de fadaise, qui me donne des nausées. Ils n'ont pas le sou, et nous ne les perdons pas de vue, de peur que leurs mains ne s'égarent. Si nous voulions leur faire crédit, il y a déjà plusieurs jours que notre magasin serait vide. Je ne puis qu'être maussade avec eux, dans l'espoir de m'en débarrasser. Mais je n'y réussis pas, ils ont une intrépidité qui me déconcerte. Quand mon mari est au logis, je me retire dans ma chambre. Mais il est souvent absent et alors je suis forcé de les supporter. Outre cela, la disette d'argent fait que nous vendons peu. Et cependant, chaque samedi, il faut que nous payions les ouvriers. Je prévois qu'avant longtemps, nous serons forcés de les congédier, car nous avons des billets à ordre dont l'échéance n'est pas éloignée. Nous devons payer samedi 600 francs, et nous n'en avons que 200. Dans les premiers jours de votre mariage, cet état de gêne me surprend beaucoup. Votre père devait connaître l'état de votre mari. Et qu'est devenue votre dot? Ma dot de 6 000 francs a servi en grande partie à garnir notre boutique et payer des dettes. Nous avons de marchandises 3 fois plus que nous ne devons. Mais quand le débit manque, le capital est mort. Vous m'affligez, car si la paix ne se fait pas, votre situation ne peut qu'empirer. Car à mesure que vous avancerez, vos besoins augmenteront. Oui, car lorsque mon mari se portera bien, il sera possible que nous ayons des enfants. Comment, est-ce que sa santé l'empêche de vous rendre mère? Ce n'est pas possible. Je ne crois pas que je puisse devenir mère en restant fille, mais au reste, je ne m'en soucie pas. Cela me paraît incroyable. Comment un homme, à moins d'être à l'agonie, peut-il être malade auprès de vous? Il est donc mort? Il n'est pas mort, mais il ne montre guère de vie. Cette saillie me fit rire, et tout en applaudissant, Je l'embrassai sans trop de résistance. Le premier baiser fut comme une étincelle électrique. Il m'embrasa, et je redoublai, jusqu'à ce qu'elle fût douce comme un agneau. « Je vous aiderai, ma charmante amie, lui dis-je pour l'encourager. Je vous aiderai à solder le billet de samedi. » Et tout en parlant ainsi, je l'attirai doucement dans un cabinet où un beau divan offrait un hôtel commode pour compléter un sacrifice amoureux. J'étais tout enchanté de la trouver docile à mes caresses et à ma curiosité, mais elle me surprit au-delà de toute expression quand, me disposant à la consommation de l'acte et me tenant déjà en posture entre les deux colonnes, elle fit un mouvement qui me dérangea de manière à rendre toute exécution impossible. Je crus d'abord que ce n'était là qu'une de ces ruses que l'amour emploie souvent pour rendre la victoire plus douce en la faisant acheter par des obstacles qui rendent le plaisir plus vif. Mais voyant que c'est tout de bon qu'elle se défendait, « comment, lui dis-je d'un ton à demi fâché, pouvais-je m'attendre à ce refus ? Dans un moment où j'ai cru lire dans vos yeux que vous partagiez mes ardents désirs. Mes yeux ne vous ont point trompé, mais que dirais-je à mon mari s'il me trouvait autrement que Dieu m'a faite? Mais il n'est pas possible qu'il vous ait laissé intact. Mon ami, je ne vous mens pas. Je vous permets de vous en convaincre. Suis-je maîtresse de disposer d'un fruit qui appartient à l'hymen avant qu'il en ait goûté la première fois? Non, femme divine, non. Conserve ce fruit pour une bouche indigne de le savourer. Je te plains et je t'adore. Viens dans mes bras. Abandonne-toi, mon amour, et ne crains rien. Le fruit ne sera point mordu, mais je puis en savourer la superficie, sans y laisser aucune trace. Nous passâmes 3 heures ensemble à nous tromper par 1000 folies délicieuses, bien propres à nous enflammer, malgré les libations réciproques et réitérées que nous nous fîmes. Une promesse 1000 fois répétée d'être toute à moi, aussitôt que Barret pourrait croire qu'elle avait été toute à lui, me consola de ma mésaventure. Et après l'avoir promenée sur le boulevard, je la conduisis jusqu'à sa porte, où je la quittai en lui mettant dans la main un rouleau de 25 louis. Amoureux d'elle, comme il me semblait que je ne l'avais jamais été d'aucune femme, je passai devant sa boutique 3 ou 4 fois par jour, faisant d'assez longs détours au grand déplaisir de mon cocher, qui se tuait à me dire que j'abîmais mes chevaux. J'étais heureux de l'avoir guetté l'instant où je passerais, et m'envoyait des baisers en plaçant le bout de ses jolis doigts sur ses lèvres. Nous étions convenus qu'elle me ferait signe de descendre que lorsque son mari aurait rompu la difficulté. Ce jour, si ardemment désiré, si impatiemment attendu, arriva enfin. Au signe convenu, je tirai le cordon, et montée sur le marchepied de la voiture, elle me dit d'aller l'attendre à la porte de l'église Saint-Germain-l'Auxerrois. Curieux de savoir ce qu'elle avait à me dire et de voir à quoi ce rendez-vous aboutirait, je me rendis au lieu indiqué, et un quart d'heure après, je la vis arriver, sa jolie tête cachée dans un capuchon. Elle monte dans ma voiture, me dit qu'elle a quelques emplettes affaires et me prie de la conduire au palais marchand. J'avais des affaires moi-même et des affaires assez pressantes, mais que peut-on refuser à l'objet qu'on adore? J'ordonne au cocher de me mener à la place Dauphine, et je me préparais à lâcher les cordons de ma bourse, quand j'avais un pressentiment qu'elle allait en agir sans façon. En effet, dès que nous fûmes au palais marchand, elle entra dans toutes les boutiques, attirée par les paroles flatteuses de toutes les marchandes. Il ne s'agissait que de voir tous les bijoux, les colifichets, les modes qu'on étalait en un clin d'œil devant elle, en l'appelant princesse, en lui disant avec des mots sucrés que ceci, que cela, lui irait à ravir. Ma Barrette me regardait en me disant qu'il fallait convenir que c'était fort joli, et que ça lui ferait bien plaisir si ce n'était pas si cher. Et moi, dupe volontaire, je renchérissais sur la marchande, l'assurant dès qu'une chose lui plaisait, qu'elle ne pourrait pas être trop chère, et je payais. Ma barrette m'ayant fait jeter au vent une vingtaine de louis, que son pauvre mari aurait regretté bien plus que moi, nous remontâmes en voiture et je la conduisis à la porte de l'église où je l'avais prise. Chemin faisant, elle me dit qu'elle viendrait passer 5 ou 6 jours à la petite Pologne et que ce serait son mari qui me demanderait la grâce de lui accorder cette faveur. Mais quand me le demandera-t-il? Demain, si vous passez, venez acheter quelques paires de bas. J'aurai la migraine et Barret vous parlera. On peut croire que je fus exact à me rendre chez le bonhomme, et comme je ne vis point madame dans le magasin, je m'informai amicalement de sa santé. Elle est malade et couchée, me dit-il. Elle a besoin d'aller prendre pendant quelques jours l'air pur de la campagne. Bien, si vous n'avez point fait choix d'un endroit, moi je vous offre un appartement, la petite Pologne. Il me répondit par un sourire d'approbation. Je vais la prier d'accepter. En attendant, monsieur Barret, empaquetez-moi une douzaine de paires de bas. Je monte, je la trouve au lit, riante, malgré sa migraine de commande. L'affaire est faite, lui dis-je. Vous allez en être informé dans l'instant. En effet, le mari monte avec mes bas et lui annonce que je voulais bien avoir la bonté de lui accorder une chambre chez moi. La petite rusée me remercie, en assurant son mari que ce grand air lui rendra bientôt la santé. « Rien ne nous manquera, madame, lui dis-je, mais vous voudrez bien me pardonner si je ne puis guère vous tenir compagnie à cause de mes affaires. Monsieur Barret pourra venir passer la nuit avec vous et partir le matin d'assez bonne heure, pour être à l'ouverture de son magasin. Après bien des compliments, Barret conclut qu'il ferait venir sa sœur pendant tout le temps que sa femme demeurerait chez moi. » Et je partis en leur disant que dès le soir même, les ordres seraient donnés pour les recevoir, dans le cas où je ne serais pas chez moi à leur arrivée. Le lendemain, je ne rentrai qu'après minuit, et ma cuisinière m'annonça que les deux époux, après avoir bien soupé, étaient allés se coucher. Je la prévins que je dînerais tous les jours chez moi, et je fis fermer la porte à tout le monde. Le lendemain, je fus matinal, et m'étant informé si l'époux était levé, j'appris qu'il était parti au point du jour et qu'il ne reviendrait qu'à l'heure du souper. Madame dormait encore. Je pensais bien qu'elle ne dormait pas pour moi, et j'allais lui faire ma première visite. En effet, elle était éveillée, et je préludai à des plaisirs plus doux par 1000 baisers qu'elle me rendit avec usure. Nous plaisantâmes au départ du bonhomme qui était venu me confier lui-même un bijou dont j'allais faire un si bel usage, et nous nous félicitâmes de pouvoir en liberté nous sacrifier l'un à l'autre pendant toute une semaine. « Allô, mon cœur, levez-vous, mettez-vous en petit déshabillé, et quand vous serez prête à déjeuner, le déjeuner vous attendra dans ma chambre. » Elle ne fit pas une longue toilette, une robe de matin en toile de coton, un joli bonnet garni d'une fine dentelle, un fichu de linon. Mais que ce petit déshabillé était embelli par la fraîcheur et les roses de son teint. Nous déjeunâmes assez vite, nous étions pressés, et quand nous eûmes fini, je fermai ma porte et nous nous livrâmes au bonheur. Surpris de la trouver telle que je l'avais laissée la dernière fois, je lui dis que j'espérais. Mais elle, sans me donner le temps d'achever ma phrase, me dit « Bon bijou, Barret croit ou fait de croire qu'il a fait ses fonctions de mari, mais il n'en est rien. Et je suis disposé à me mettre à toi, dans l'état à ne pas lui laisser le moindre doute. » Oh, ce sera mon ange, lui rendre un service essentiel, et le service sera bien fait. Tout en disant ces mots, j'étais sur le seuil du temple, et j'ouvris la porte d'une manière à briser toutes les résistances. Un petit cri, puis quelques soupirs m'annoncèrent que le sacrifice était complet, et au fait, l'autel de labour était inondé du sang de la victime. Après une ablution très nécessaire, le sacrificateur exerça de nouveau son zèle sur la victime qui, devenue intrépide, provoquait sa fureur, et ce ne fut qu'après la quatrième immolation que nous remîmes la joute à un autre moment. Nous nous fîmes 1 000 serments d'amour, de constance, et peut-être étions-nous moins sincères dans nos prouesses que nous étions ivres de bonheur. Nous ne nous séparâmes que pour nous habiller. Ensuite, ayant fait un tour de jardin, nous dînâmes tête à tête, certains de retrouver dans un repas délicieux, assaisonné des meilleurs vins, les forces nécessaires pour contenter nos ardents désirs et les endormir dans les plus douces jouissances. Au dessert, pendant que je lui versais du champagne, je lui demandais comment, avec un tempérament de feu, elle avait pu se conserver intacte jusqu'à ce jour. L'amour, lui dis-je, aurait pu cueillir plutôt un fruit dont l'hymen n'a pu jouir. Tu as 17 ans. Il y en a bien deux que la poire était mûre. Oui, je le crois, mais je n'ai jamais aimé. Et voilà pourquoi, le pourquoi de tout. Mais n'as-tu pas eu quelques courtisans aimables? On m'a recherché, mais en vain. Mon cœur ne parlait pas. Mon père a peut-être cru le contraire quand je le priais il y a un mois de me marier bien vite. Oui, ce serait assez naturel, mais puisque tu n'aimais pas, pourquoi l'as-tu donc tant pressé? Mais je savais que le duc d'Elbeuf ne tarderait pas à revenir à la campagne, et que s'il m'avait encore trouvé libre, il m'aurait forcé de devenir la femme d'un homme que je méprise et qui me voulait à toute force. Et quel est donc cet homme pour lequel tu as tant d'aversion? C'est un des infâmes mignons du duc, un véritable monstre qui couche avec son maître. Comment? Est-ce que le duc a de ces goûts-là? Très certainement. Il a 84 ans, il croit être devenu femme. Il prétend qu'il lui faut un époux. Je pouffais de rire. Mais est-il bel homme, ce soupirant? Moi, je le trouve horrible, mais tout le monde dit qu'il est beau. La charmante Barrette passa 8 jours chez moi, et chaque jour nous renouvelâmes à plusieurs reprises un combat où nous étions toujours vaincus et toujours vainqueurs. J'ai vu peu de femmes aussi jolies, aussi attrayantes qu'elle, et jamais je n'en ai vu de plus fraîche ni d'aussi blanche. Sa peau était un satin composé de feuilles de rose. Son haleine avait quelque chose d'aromatique qui rendait ses baisers extrêmement suaves. Elle avait la gorge merveilleusement formée, et les deux globes dont elle était surmontée, ornés de deux perles de corail, avaient la dureté du marbre. Sa taille était fine et la courbe qui la terminait était d'une perfection à défier le pinceau du peintre le plus habile. Je trouvais à la contempler un plaisir que je ne saurais dire, et au milieu de mon bonheur. Je me sentais malheureux de ne pouvoir suffire à tous les désirs que tant de charme réveillait en moi. La frise qui couronnait les colonnes était composée de petites boucles d'un or pâle d'une extrême finesse, et mes doigts s'évertuaient en vain pour leur donner un autre pli que celui qui leur était naturel. Elle n'avait pas été difficile à se former au mouvement vif et gracieux qui double le plaisir. La nature chez elle avait fait tous les frais de cette éducation. Je ne crois pas qu'on puisse en trouver de plus parfaite. Nous vîmes arriver le jour de son départ avec une égale répugnance, et nous ne pouvions nous consoler de ce malheur que par l'espoir de nous réunir le plus souvent possible. 3 jours après son retour chez elle, plus amoureux que jamais, j'allai la voir, et je lui fis présent de 2 billets de mézières de 5 000 francs chacun. Son mari en pensa à tout ce qu'il voulut, mais il fut heureux de pouvoir payer ses dettes et d'être, par cette bonne fortune, en état de continuer son commerce et d'attendre la fin de la guerre. Il y a tant de maris qui se trouveraient heureux d'avoir une femme aussi productive.